Il est 7h41 sur France Culture et dans les matins, c'est l'heure du son du jour, un petit spot diffusé par l'Observatoire des inégalités en lien avec l'invité du jour, Thomas Piketty. Bonjour, vous êtes économiste, écoutez, ça va vous intéresser.
Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Une moitié de joueurs commence avec 1500 euros, l'autre moitié avec 750 euros.
Mais ça se fait pas.
Ça se fait pas.
Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie.
3 rues et 2 maisons.
Non.
Mais ça se fait pas.
C'est injuste.
Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison.
Oh.
Toi, tu vas en prison.
Pourquoi? Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout.
Un monopoly, il faut cesser un peu ce à quoi ressemble le capitalisme mondial selon vous, Thomas Piketty. On va parler de l'avenir de la gauche, nous allons également parler de vos propositions pour l'avenir de l'Europe. Mais avant, vous avez une annonce à faire puisque vous travaillez sur une étude globale dans différents pays sur les inégalités dans le monde. Une étude qui va être menée tous les 2 ans. En quoi consiste-t-elle, Thomas Piketty ?
Alors, nous allons publier à l'École d'économie de Paris, à la fin de l'année, notre premier rapport sur les inégalités mondiales, qui sera publié par les éditions du Seuil en France, par Harvard University Press aux États-Unis, en chinois, en espagnol. Mm-hmm. C'est le fruit d'un très gros travail collectif où on a rassemblé maintenant dans plus de 70 pays du monde, plus de 100 chercheurs dans le monde, avec des chercheurs de toutes les nationalités, la plus vaste base de données existante sur l'évolution historique des inégalités. C'est déjà d'ailleurs disponible en ligne sur le site wid.world. Et la grande nouveauté par rapport à dans mon livre Le Capital au XXIe siècle, c'était un peu trop il y a beaucoup de limites, beaucoup de défauts, mais le principal sans doute c'est que c'était trop centré sur les pays occidentaux, sur l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, le Japon. Là, on a fait un gros travail de collecte dans les pays émergents, en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, et peut-être un des effets les plus intéressants du succès de mon livre, c'est que ça nous a permis dans beaucoup de pays, en mettant la pression sur les gouvernements, en attirant des nouveaux chercheurs, des jeunes chercheurs de tous les pays, Lydia Aswad qui travaille sur le Moyen-Orient, Clara Tolenado sur l'Espagne, l'Amérique du Sud, on a beaucoup de jeunes chercheurs et ça va nous permettre de donner un point de vue qui soit un peu décentré, c'est-à-dire que la question des inégalités, c'est pas seulement les 1% aux États-Unis, la dette publique en Europe, même si on va en reparler, c'est important, mais c'est aussi en Chine, en Russie, le Moyen-Orient qui est une des régions les plus inégalitaires de la planète, encore plus inégalitaire que le Brésil ou l'Afrique du Sud, où pourtant il y a un passif de discrimination raciale très fort, mais les inégalités modernes créées par le pétrole, des frontières arbitraires, des fonds souverains qui transforment la rente pétrolière en une rente financière infinie, finalement, ces mécanismes modernes de génération des inégalités peuvent donner des niveaux de concentration des richesses et d'inégalité des chances pour des jeunes Égyptiens par rapport à des jeunes Saoudiens qui n'ont rien à envier aux sociétés les anciennes avec les inégalités les plus brutales. Donc voilà, on veut mettre tout ça en perspective pour que tout le monde puisse se saisir de cette question parce que c'est d'abord un objectif de démocratisation des connaissances, du savoir en sciences sociales.
Un lien donc entre l'absence de démocratie et l'augmentation ou les fortes inégalités ?
Oui, c'est certain. Je pense que dans beaucoup de pays, ces questions ont été trop souvent confisquées. C'est-à-dire, j'interprète cette demande de connaissances sur ces questions comme le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays du monde qui évidemment sont pas des économistes, sont pas spécialistes de ces questions, mais en ont assez qu'on leur explique que c'est trop compliqué pour eux, que ces questions financières, économiques doivent être laissées à un petit groupe d'experts qui auraient accumulé une science tellement scientifique que personne d'autre ne pourrait comprendre. Tout ça est absurde et je pense que ce besoin de participation est très important, un besoin d'information, pas seulement sur France Info, pas seulement en 30 secondes, qui demande plus de temps.
Nous avons du temps sur France Culture, même si nos camarades
donc,
de France
nous,
Info...
Nous, comme chercheurs en sciences sociales, on essaie d'y contribuer.
Justement, lorsque vous avez publié Le Capital au XXIe siècle, vous remettiez en cause une forme d'idée reçue selon laquelle plus les sociétés se développaient, plus les inégalités diminuaient. Mais lorsque vous étudiez des sociétés moins développées que l'Occident, puisque c'est l'un des thèmes de cette vaste étude que vous avez lancée, Thomas Piketty, est-ce que vous observez un stade où les inégalités progressent. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a en quelque sorte des lois et des conclusions à tirer?
Il n'y a pas de loi naturelle en économie. Il y a d'abord des institutions
politiques.
Non, mais
des lois empiriques.
Voilà, il y a des institutions politiques. Il y a toujours plusieurs choix possibles. C'est-à-dire la principale leçon de ces études, c'est qu'il y a toujours des alternatives. On voudrait parfois nous enfermer comme ça dans une vision du monde où voilà, il y a un degré d'inégalité qui doit être ce qu'il est. C'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe dans les tendances de l'inégalité moderne, c'est que il y a un mélange de mécanismes très très anciens de discrimination qui continue de jouer un rôle. Il y a des mécanismes plus modernes sur le pétrole, la dérégulation financière, les marchés financiers qui jouent également un rôle très important. Donc on n'est pas du tout dans cette espèce de conte de fées méritocratique comme on voudrait parfois nous décrire l'inégalité moderne, où on dirait ça n'a plus rien à voir avec le passé parce qu'aujourd'hui c'est les entrepreneurs innovants et utiles pour tout le monde, c'est l'inégalité toujours parfaitement juste et méritée qui s'arrête exactement, le curseur s'arrête comme par miracle juste au bon niveau pour l'intérêt général. Ce monde enchanté où voilà on aurait des inégalités qui auraient un fondement méritocratique et qui nous différencierait complètement du passé résiste pas à l'analyse. Donc plus que jamais, on a besoin de politique, on a besoin de puissance publique, on a besoin de démocratie, de délibération collective pour réguler toutes ces forces économiques.
Votre insistance sur la démocratie, elle passe aussi par une démocratisation d'un certain nombre de questions économiques européennes. Vous avez fait des propositions dans ce sens, dans un livre, sur votre blog également, Thomas Piketty. Aujourd'hui, l'Europe est aux prises avec Donald Trump. Quelles sont vos idées à ce sujet? Qu'est-ce qu'il serait possible de faire, selon vous, pour démocratiser l'Europe et donner un nouveau souffle à la construction européenne?
Alors, nous avons publié un petit livre qui s'intitule « Pour une démocratisation de l'Europe » avec Stéphanie Hennette, qui est professeure de droit public à Nanterre, Antoine Vauchez, Guillaume Sacris, qui sont enseignants-chercheurs en sciences politiques à Paris 1. Et on a fait l'effort, dans ce tout petit livre, qui est vraiment accessible à tous, de montrer qu'il est possible de changer l'Europe, de démocratiser l'Europe. Et on propose dans ce petit livre un nouveau traité de démocratisation de l'Europe qui prétend pas être parfait, mais qui au moins montre qu'il est possible de changer les choses. Parce qu'on a aujourd'hui une espèce de fatalisme, soit on envoie tout promener et il n'y a plus rien, etc. Soit on peut rien changer. Et entre les deux, il y a un espace des possibles. Notre proposition centrale, c'est de créer une assemblée démocratique de la zone euro, qui s'appuierait à la fois sur les députés européens et sur les députés nationaux de l'Assemblée nationale, du Bundestag, de différents parlements italiens et espagnols, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des différents groupes politiques, pour pouvoir délibérer et décider, parce que ce ne serait pas simplement consultatif, et avoir le dernier mot sur des questions très importantes qu'on n'arrive pas à trancher en Europe. Quelles sont-elles? On a, par exemple, toute la question de la dette grecque, et plus généralement des pays d'Europe du Sud, où ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut enfin investir dans la croissance, qu'il faut enfin une réduction de dette, et on a un système complètement bloqué qui actuellement tourne autour de l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des finances de la zone euro, qui se passe à huis clos, dans lequel vous avez une personne pour représenter un pays de 82 millions d'habitants, l'Allemagne, une personne pour représenter un pays de 67 millions d'habitants, la France. Tous ces gens-là nous annoncent régulièrement au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17e fois. On se rend compte dans la journée qui suit qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont décidé, que eux-mêmes souvent ne savent même pas ce qu'ils ont décidé. Donc on a besoin de sortir de ça.
Ça veut dire quoi, eux-mêmes ne le savent pas?
On se rend compte qu'en fait, les mesures qui sont annoncées typiquement sur la restructuration de la dette grecque, ça fait 5 ans qu'on les annonce, ça fait 5 ans qu'on nous dit « Ah, ce sera au printemps prochain, ce sera après les élections suivantes ». Et en fait, on laisse s'installer cette désespérance face à une jeunesse qui, quand même, en Europe du Sud, se retrouve avec des taux de chômage hallucinants. Et on est en train de faire du mal à un rêve européen auquel on pourrait donner une chance. Donc, cette assemblée démocratique de la zone euro, elle aurait le dernier mot. Et c'est ça le point central dans notre proposition de traité, c'est-à-dire que l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances, existerait toujours, mais en cas de désaccord, c'est cette assemblée démocratique dans laquelle, disons les choses clairement, la droite allemande n'aurait pas la majorité parce qu'elle n'est pas majoritaire en Europe, tout simplement. C'est-à-dire que si on compose une assemblée de façon démocratique, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des groupes politiques. Donc c'est vraiment la culture parlementaire la plus européenne, la plus allemande, la plus française, la plus italienne, espagnole, ce sont nos valeurs communes. Et il s'agit simplement de les appliquer au niveau de la zone euro. Mais si on n'a pas cette reconstruction démocratique, alors là, je crois qu'on court un grand risque, parce qu'en cas de nouvelle crise financière, et il y aura toujours des crises financières dans le capitalisme, aujourd'hui, les Français, les Allemands, aujourd'hui, sont très hypocrites vis-à-vis de l'Europe du Sud, parce qu'ils disent, écoutez, les taux d'intérêt sont très bas pour nous, Donc pourquoi voulez-vous qu'on mutualise les dettes? Pourquoi voulez-vous qu'on fasse un effort? Les pays d'Europe du Sud, c'est de leur faute si les marchés financiers s'acharnent sur eux. Tant pis pour eux. Sauf qu'il n'y a pas de justice comme ça immanente en matière économique qui fait que le taux d'intérêt imposé à la Grèce est juste et celui imposé à l'Allemagne beaucoup plus bas est tout aussi juste. Tout ça est arbitraire et demande de la régulation collective, demande une assemblée démocratique de la zone euro pour en décider.
Vous avez l'impression que les questions économiques sont escamotées, que c'est en quelque sorte la droite allemande qui fixe la norme économique aujourd'hui en Europe ?
Je pense que surtout les dirigeants français n'ont pas fait l'effort de faire des propositions. Parce que c'est bien joli de se plaindre de l'Allemagne, se plaindre de Bruxelles. Les Français savent bien le faire. Mais ce qui est important, c'est de mettre des propositions sur la table. Et je crois qu'il y a eu une certaine lâcheté des dirigeants français, aussi bien sous Sarkozy, sous Hollande et Macron, et là à nouveau sous Macron et des nouveaux qui l'accompagnent, à finalement ne pas mettre de vraies contre-propositions sur la table. Et moi, j'aurais aimé qu'on en parle davantage pendant les élections. C'est pour ça que nous avons publié ce livre pour une démocratisation de la zone euro. Mais parlons-en maintenant. Ce qui compte, c'est la suite.
Justement, sur le plan institutionnel, on a compris ce que vous vouliez faire, Thomas Piketty. On a compris que vous vouliez mettre au vote et donc établir un système démocratique, un certain nombre de décisions économiques qui semblent bien souvent tomber du ciel ou en tout cas tomber d'on ne sait où. Ces décisions, si vous aviez en quelque sorte à donner votre sentiment sur ce qu'elles devraient être en matière de dette, en matière de déficit, quelles devraient-elles être? Parce que vous avez là aussi votre opinion à ce sujet.
Alors moi je pense que l'Europe devrait aujourd'hui investir dans l'avenir, investir dans les énergies renouvelables, investir dans la formation, dans l'enseignement supérieur. Actuellement on est dans une situation de grande défiance économique, non seulement des citoyens mais aussi des acteurs économiques et financiers qui ne savent pas finalement si les pays de la zone euro veulent rester ensemble. Et donc on a besoin d'une puissance publique qui investisse. Vous savez, dans l'histoire, on a déjà connu des niveaux de dette publique encore plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Donc là, la bonne nouvelle c'est qu'on s'en est toujours sorti. Mais une grande leçon de l'histoire, si on confronte les différents épisodes historiques au 19e siècle, au 20e siècle, d'endettement public très élevé, c'est que si vous voulez vous en sortir simplement avec de l'austérité, avec une inflation nulle, avec des excédents budgétaires primaires, comme ceux qu'on demande aujourd'hui à la Grèce, aux différents pays de la zone euro, avec 2-3% du PIB d'excédents primaires chaque année, voire davantage, ça prend des décennies et des décennies. L'Europe, dans les années 50...
C'est-à-dire qu'on s'en sortira pas, pardonnez-moi, juste pour bien comprendre, on s'en sortira pas en ponctionnant ces pays, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Ça prendra tellement de temps, finalement, ça se retourne contre nous, parce que même du point de vue des épargnants, des personnes souvent plus âgées ou les personnes les plus riches au sein des personnes plus âgées qui ont de l'épargne, ces personnes ont aussi des enfants qui peuvent être au chômage, ces personnes dépendent de la bonne santé économique de l'ensemble de la zone euro. Donc finalement cet égoïsme à courte vue vis-à-vis des pays d'Europe du Sud, des pays endettés, ne marche pas. Il faut aussi rappeler que l'Europe s'est construite dans les années 50 sur une stratégie au contraire d'investissement dans l'avenir où en fait on a de fait passé l'éponge sur un certain nombre de dettes publiques du passé pour l'Allemagne, pour la France, pour les différents pays, afin de s'adresser finalement aux jeunes générations et consistant à dire, voilà, vos parents ont accumulé des dettes, il y a toutes sortes d'erreurs qui ont été commises, mais maintenant ce qui compte c'est la reconstruction, c'est l'investissement dans l'infrastructure, c'est la croissance et c'est ça aujourd'hui le message qu'il faut avoir pour les jeunes générations d'Européens, mais il faut le faire dans un cadre démocratique, délibératif, majoritaire comme celui qu'on propose.
Mais si on passe l'éponge, qui sont les créanciers qui vont perdre les dettes ou en tout cas l'argent qu'ils ont prêté, Thomas Piketty?
Dans la répartition du patrimoine, des actifs financiers immobiliers, elle était rappelée par la petite bande son qu'on écoutait tout à l'heure, elle est très inégalitaire. C'est-à-dire que vous avez en gros la moitié de la population en France, en Allemagne, en Europe qui possède très très peu de patrimoine et vous avez les 10% les plus riches en patrimoine qui possèdent plus de 60% du total. C'est généralement les groupes plutôt plus âgés et les plus privilégiés au niveau des groupes plus âgés. Donc quand vous avez une dette à repayer, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va payer. Donc la question, c'est est-ce que vous faites porter tout l'ajustement, comme c'est le cas actuellement, sur les jeunes générations qui connaissent, à cause de l'austérité, des taux de chômage extrêmement élevés, ou est-ce que vous essayez de trouver une façon plus équilibrée?
Donc vous voulez faire payer les vieux riches?
Je préfère qu'on fasse moins porter l'ajustement sur les jeunes générations et un peu plus sur ceux qui ont plus de moyens, dont les vieux riches, mais enfin les jeunes riches aussi, hein, vous savez, il n'y a pas de brimade sur l'âge.
Mais bien souvent, une inégale répartition les générations.
Finalement, sauf que les vieux riches, ils ont aussi des enfants et des petits-enfants qui ne sont pas tous dans une santé économique exceptionnelle, qui peuvent être au chômage. Donc finalement, tout ça, c'est l'intérêt bien compris de l'ensemble. Vous savez, actuellement, pour prendre l'exemple, les épargnants allemands ou les retraités allemands qui auraient une épargne importante, qui auraient été prêtée à la Grèce, à l'Europe du Sud, le fait qu'on ait des taux d'intérêt zéro en zone euro, ça les aide pas tellement pour leur épargne. Donc finalement, cette mauvaise santé économique d'ensemble de la zone euro se retourne contre tout le monde. Donc c'est ça une des leçons de l'histoire, c'est qu'il y a un moment, il faut savoir repartir de l'avant, y compris du point de vue des créanciers, pour réinvestir. Mais ça, moi, je veux dire, c'est une position. Ce qui compte, c'est que ce soit débattu démocratiquement dans une assemblée de la zone euro. Et moi, je fais confiance à la démocratie, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et je pense que c'est important aussi à un moment de dire, voilà, on a des positions différentes, on va en délibérer et surtout, on va enfin trancher. Parce que sur toutes ces questions, on ne fait que repousser plus loin les débats.
On peut aussi faire confiance en Thomas Piketty pour nous dire aussi ce qu'il pense et avoir un point de vue éclairé d'économiste. Vous dites que finalement, les pays peuvent supporter un haut niveau de dette, en tout cas les pays européens. Ce que l'on lit souvent dans les manuels d'économie, il y a un certain nombre d'ouvrages classiques, celui de Paul Kennedy par exemple, sur la capacité aussi des empires à s'effondrer sous le poids d'une fiscalité excessive liée justement à l'endettement. Alors l'exemple classique pour Paul Kennedy, c'est l'Empire romain. On a pu lire cela également pour les États-Unis, est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, pareil scénario se reproduise, Thomas Piketty ?
C'est évidemment un risque. C'est la dette publique qui a en partie conduit à l'explosion de la Révolution française, et on s'en est débarrassé dans l'inflation, dans des mesures fiscales exceptionnelles. On a vu d'autres périodes dans l'histoire après la Seconde Guerre mondiale où les dettes publiques ont été réduites très rapidement dans l'inflation, dans les mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, le risque, c'est quoi ? C'est que si on n'organise pas démocratiquement une stratégie où on repousse le remboursement des dettes au retour de la croissance. Et sur des pays qui ont actuellement un niveau d'activité économique comme la Grèce, qui est un quart plus bas qu'en 2007, on prend une mesure de bon sens qui est de dire tant qu'on n'a pas retrouvé une trajectoire de croissance, un niveau d'emploi correct, ça sert à rien de demander des excédents primaires mirobolants comme actuellement. Donc on conditionne ce remboursement au retour de la croissance, ça permet d'obtenir des meilleurs résultats. Parce que l'alternative, c'est quoi ? C'est évidemment le retour chaotique aux monnaies nationales et à l'inflation. C'est-à-dire toute la stratégie de sortie de la zone euro que prônent certains mouvements politiques, ça conduirait de fait, sans aucun doute, à un retour de l'inflation, mais au prix d'une mise en tension de nos sociétés, avec des clivages nationaux, parfois ethniques, qui seraient exacerbés. L'inflation en plus, c'est une
un
façon...
Un coup d'inflation en plus, ça ne serait pas...
C'est pas la meilleure solution. Alors, un petit peu en plus, c'est vrai que 0%, c'est quand même faible. Et c'est vrai que 2%, 3%, 4%, c'est quand même un peu mieux que 0%. Maintenant, moi, je préfère l'impôt progressif sur le patrimoine. Je préfère des décisions collectives de rééchelonnement des dettes où on conditionne. Par exemple, vous savez, on a déjà fait en Europe. En 1953, la conférence de Londres a choisi de repousser tout le repaiement de la dette extérieure allemande, qui était une dette de reconstruction d'ailleurs, qui n'était pas une dette de guerre, hein, bien sûr. C'était une dette de reconstruction parce qu'entre 1945 et 1953, l'Allemagne avait du mal à faire rentrer les impôts, un peu comme la Grèce ces dernières années, permettant de payer ses dépenses, ses infrastructures, qui étaient très nécessaires à l'époque. En 1953, on décide, à la conférence de Londres, de repousser le repaiement de la dette allemande à l'unification allemande. Et en 91, 38 ans plus tard, on dit oui, c'est vrai, il faut, mais sauf qu'on avait oublié de l'indexer sur l'inflation et sur la croissance, donc allez, on oublie complètement. Je dis pas qu'on va finir exactement comme ça sur les directs, mais je pense que ce précédent historique est important pour réfléchir concrètement à des solutions de pouvoir d'abord se consacrer à la croissance, à la reconstruction, comme on l'a fait en Europe dans les années 50, plutôt que d'étouffer les jeunes générations dans le sous-emploi.
Thomas Piketty, pour un vrai gouvernement de la zone euro, on se retrouve aux environs de 8h20 et vous nous donnerez votre point de vue sur la politique française. Cette fois, il est 8h sur France Culture.